Mon père est venu à Groyer d'Allemagne en 1930 pour travailler dans une usine de cuir comme jeune employé, 18 ans, et il est resté, ben, il a eu la guerre. Mon père s'occupait de récolter les cuirs d'une centaine d'usines à Groyer et Mazamé. Donc le circuit, c'était Australie ou Argentine. À Mazamé, les peaux étaient délainées. Le sous-produit était le cuir. Avant tout, ils récoltaient la laine pour Lille, Roubaix, Tourcoing. Et nous, on valorisait ce sous-produit. Faire des doublures de bottes de cow-boy. Ouais.
Faire peau neuve. Un documentaire de Charlotte Rouault et Benoît Boré.
Groyer, c'était un endroit incontournable. Il y avait trois centres, en Italie, en Espagne, et ici, c'était la capitale du cuir en France. Et donc les gens, les Américains, les Chinois, enfin, tout le monde venait à Groyer. Il y avait toujours plein d'étrangers qui venaient à l'hôtel. Alors il y avait beaucoup de dames qui travaillaient dans les ateliers de finition, qui retaillaient les peaux avec des ciseaux, qui travaillaient les machines. Bon, les costauds, ils étaient dans les ateliers humides, quoi. La rivière, on appelait ça, patauger dans l'eau, dans les odeurs. Voilà. Ouais, nous, on était une toute petite entreprise, on a eu 50 employés maximum, quoi. Il n'y avait aucun problème, c'était très paternaliste. La plus grosse usine avait peut-être 150 ou 200, peut-être un peu plus de 150 employés. Mais bon, il y avait une très très grosse activité.
Graouliette, Cancesprou, Amusat.
Il y avait de différents groupes, quoi. Il y avait les émigrés espagnols, portugais et maghrébins.
Centurno, Raspa, Lacudeno, de l'Aspel, Paudessa, Trempa.
Pour travailler, invité par les musiciens.
Et Crentopas, la plus d'Issino, que Monto de Cado Causino.
Mais bon, et c'est...
Coulour.
Il n'y avait aucun problème, quoi, ça se mélangeait.
Drogos mis santos, souven asfixiantos, tampis per la chantat.
Bon, après, il y a eu la construction du quartier HLM de Crès, quoi, qui a fait... Il y a eu un mini ghetto qui s'est créé, quoi.
Que des aspels mancari espace.
Mais bon, on ne le sentait pas du tout, on ne sentait pas. Donc les gens étaient super contents de travailler, hein, bon.
C'était dur.
Quand on finit, il y a le misère.
C'était pénible.
Tout on a fait dans la terre.
Mais on a vécu et on s'est régalé. Et on a fait un travail énorme.
Porto dans les causinos, il y a le pulit dans les esquinos, dans toutes les buscausas.
Mais bon, je me souviens quand j'étais très jeune, le samedi, le dimanche matin, la grande rue était pleine. Tout le monde allait en ville, il y avait tout plein de magasins, ça travaillait énormément. Moi j'étais le fils du patron et donc j'habitais à la campagne et j'étais plutôt dans la ville d'à côté à Lavaur pour changer d'air tous les soirs. Il y avait un climat de travail très 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 lourd et pesant, quoi, hein. Mais bon, la vie était belle, c'est pas une grosse zone industrielle, quoi, hein.
Grauliette et boue caritable, à tout malheur compatissant, secrète au pain d'un diable, espiète à tout perlendissant, d'un aïe au son cosa camiso, mais par l'espace de feignantiso. Hay moluscos de brases que son painas culases, cal trabal su arden.
Bon, mon père, il travaillait dans une mégisserie et il a fait ça pendant presque 40 ans, jusqu'à la retraite. Bon, il a tout fait. Au cuir, on commence partout par la rivière et on monte progressivement pour terminer au sec. Au secteur du cuir, il y avait mon père, mon frère, moi qui ai un peu travaillé dedans. Et tout le monde, après le lycée professionnel, ce qui partait pas à lycée général, terminait souvent dans une magisserie.
Je vous remercie. Passez une bonne journée.
Merci. Au revoir. Prends ta lettre.
Dans le filet ou le filet ?
Dans le filet, là.
Dans le filet ? Allez.
La magisserie, c'était l'or de la ville. Par là, tout le monde pouvait avoir un travail, tout le monde pouvait s'en sortir sur différents postes. C'était, il y avait le cuir, mais il y avait tout l'entretien autour. Il y avait l'entretien des machines, tout ce qui était mécanique, l'entretien des bâtiments, des espaces verts, parce qu'il y avait beaucoup de maisons de maître. Il y avait beaucoup de travaux. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de commerce, et beaucoup d'argent, beaucoup de vie. C'est pour ça que les gens, il n'y a pas que la magisserie en elle-même. Je pense que c'est toute la vie qu'il y avait autour. Ce monde qui bougeait, qui fait un vide. Parce que l'industrie, on peut amener une autre industrie derrière. Je pense que ce ne sera pas le même effet parce que plusieurs industries divisent les personnes. Une seule industrie, les gens, quand ils se rencontrent en ville, dans un bar, ils savent, ils parlent tous de la même chose. C'est la mono-industrie, c'est bien pour ça. Et ça a des avantages et des inconvénients. Pour que le lien social et tout, personne n'était différent. On avait tous le même travail. Le même objectif, faire développer le cuir.
Si il y a quelque chose,
je vais vous donner que de la monnaie.
Oui, oui, non, mais je prends.
7, alors, allez-y. Et 10. Et voilà pour moi. Merci à vous.
Souvent, les maires des villes étaient vraiment affiliés à une magisserie. C'était un noyau dur qui dirigeait tout de la ville. Pas de gare, pas de lycée, un minimum de moyens de locomotion.
C'est
pas
la chanson des petits cochons, les trois petits cochons. Chanter, ça va passer à la radio.
Ben, je vous dirais que dès la fin de la guerre de 14, c'est un patron magicien qui est devenu le maire de Groyer. Et il y en a eu d'autres. Et même quand la municipalité était de gauche, il y avait toujours un ou deux patrons qui étaient au conseil municipal et même adjoints.
Des pouvoirs publics ont évité une arrivée massive peut-être d'autres entreprises pour ne pas perdre le pouvoir. Pour que les patrons magiciens ne perdent pas le pouvoir. Oui, mais comme pour les habitants de la ville, le patron magicien ou le pouvoir étaient la même chose, la même famille. Automatiquement, pour pas que la famille perde la même mise sur la ville.
En 1945, il devait venir à Groyer une usine de Clermont-Ferrand. Devait venir faire des pneumatiques à Groyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait le poids de la chambre syndicale de l'époque qui faisait qu'ils bloquaient tout et ils empêchaient des nouvelles entreprises de venir. Moi, j'ai souvenir quand KP1 est venu. Dans les années 85, ça doit être. Bon, eh bien, le souci de quelques mégissiers, c'était d'aller voir le patron et lui dire, écoute, évite de les payer plus cher que le SMIC.
Rouillet était vraiment une anomalie sur le territoire, parce qu'une anomalie, je dirais positive, hein, puisqu'on était vraiment avec une industrie très forte qui était le métier du cuir. Cette industrie forte amenait les Grouilletois à se refermer un petit peu sur leur territoire, puisque ça marchait bien, on n'avait pas besoin des autres. Donc on s'est un petit peu refermé sur notre ville, je pense, dans les années 70-90.
Il faut pointer, hein ?
Ce qui, quand la crise du textile est arrivée, donc on a peut-être été un peu dépourvu.
Moi, tout le monde travaillait ma femme travaillait dans la maroquinerie. Oui, elle travaillait. Après, c'est parti au Maroc aussi, là, à Mazamé, quand elle travaillait pour Mazamé. Mmh.
rendez compte, on a perdu le sport, on a tout perdu. Le rugby, on avait une équipe de rugby qui jouerait top 14 maintenant, c'est vrai. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de rien. Pourquoi ? Parce que c'est les tanneries qui finançaient tout, les mégisseries qui finançaient tout. C'est ouais. Ça, on n'avait que le cuir, donc ils n'ont pas su ce, on n'a pas su ce, voilà. Ce convertir comme il faut. On ne s'est pas, aperçu que la crise arrivait aussi, je crois. Il n'y a plus rien, on subit. Oh, donc même moi, mais au moins il a fallu que je parte, à l'étranger travailler.
Connu encore un tout petit peu une période où ça roulait tout seul. Et bon, je suis arrivé, c'était juste le choc pétrolier, quoi. Ça a commencé à descendre, après ça a été une dégringolade infernale. Et avec des bonnes années, des périodes très courtes, un ou deux ans où ça remarchait à fond, où il y avait un nouveau produit et qui se réécroulait parce qu'il y avait justement la mondialisation qui se profilait. Groyer était spécialisé dans les très gros volumes et les bas prix. Donc c'était le produit qui était le plus facile à faire dans les pays à bas salaire.
Les mégisseries, c'est vrai que certains sont partis dans les années 90 à l'étranger. Certains sont allés en Afrique, certains sont allés en Chine. Une mégisserie, là, qu'on appelle l'oreille, est partie en Chine pour apprendre les Chinois à fabriquer. Alors ça marchait très bien les deux premières années. Puis la troisième année, quand les Chinois ont eu appris, alors a dit, mesdames, messieurs, vous repartez avec votre valise parce que sinon ça va aller mal.
C'était juste un but financier. Certains ont vendu un savoir-faire, qui ont gagné beaucoup d'argent, et d'autres ont été se dorer la pilule sur des endroits plus sains, moins pollués.
À Groyer, il y a toujours une chambre syndicale des mégissiers. Et à un moment donné, il y a eu un président qui était plus ouvert que ses prédécesseurs et qui, dans une commission, a évoqué la possibilité de changer tous les statuts et que les mégissiers travaillent en coopérative. Alors évidemment, et donc il y a eu un vote et personne n'a voté. Voilà. Ça aurait pu être une solution, quoi. Mais c'était irréalisable, quoi.
Les perdants, ça a été les ouvriers, mais le temps qu'ils ouvrent les yeux, il y a eu du temps qui est passé.
Chaque patron voulait rester maître chez lui, quoi.
Et une fois qu'on a changé, on s'est rendu compte que le passé avait laissé beaucoup de dégâts, même après le départ de l'industrie. On en parle, mais on cherche la faute, on renvoie la faute pas aux mégissiers. Les mégisseries qui ont fermé, qui sont exportées, c'est souvent « Oui, c'est parce que le fils a repris la relève, c'est lui qui a fait couler la mégisserie. » C'est pas la faute des mégissiers, c'est pas la faute des politiques de la ville, c'est toujours la faute d'une personne, du fils, ou parce qu'il a vendu, c'est de la faute d'un tel. Mais ils ont du mal à dire que c'est de leur faute qu'ils ont laissé partir ceux qui les avantageaient parce qu'ils faisaient travailler le cuir moins cher ailleurs et le vendaient au même prix. Ils avaient trouvé une main d'œuvre moins chère et automatiquement, ils se faisaient plus de bénéfices. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de mégissiers qui ont eu un peu de cœur, on va dire. Parce qu'il y a quand même certains mégissiers avant de fermer, avant de partir dans les pays de l'Est, au départ, ils ont quand même licencié leurs ouvriers, ils ont tous été payés, ils ont nettoyé leur site et ils sont partis. Ils se comptent sur les bouts des doigts. Mais encore aujourd'hui, on en croise, ils peuvent se promener, on va dire, la tête haute. Mais c'est une minorité. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont aucun scrupule. Même encore aujourd'hui, ils se promènent qu'avec du luxe et ça ne les dérange pas. Ils ont exploité des gens toute leur vie, ils passent devant comme c'était normal et c'était tendu.
Répéter la question.
Qu'est-ce que l'industrie de la pâtisserie a apporté à la ville et qu'est-ce qu'elle lui a enlevé?
On n'a rien apporté. Hein. On n'a rien apporté.
Il y a quand même des grandes fortunes qui se sont faites.
Ouais, mais pour certaines personnes. Hein. Mais pas pour ceux qui ont travaillé. Voilà. Ils sont parés. Hein. Si, il y a quelques anciens patrons qui sont restés. Bien, j'en connais quelques-uns, mais après, bon. Non.
Ça vous trouvez, qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien. Oh là là, attends, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est comme partout. On profite de la main-d'œuvre. Et une fois qu'il n'y a plus rien à gagner, ils partent et ils les laissent tomber. C'est tout. Lui il a travaillé le pauvre, c'est un portugais. Viens José, viens. José, la dame, elle bon pose dia. Des questions sur l'usine avant.
Bon dia,
José il a travaillé à l'usine.
Ah oui, il a travaillé beaucoup.
Attends, vous allez rire. José, toi tu as travaillé à l'usine.
Oui.
Voilà, combien de temps?
Combien de temps?
Ouais.
30 ans.
30 ans.
Oui.
Posez-lui une question.
30 anos da usina.
30 anos.
Beaucoup. E tu para pouco de artrete.
Voilà.
Olha lá. 30 anos de trabalho e tu com a renda de artrete. 700 euros por mois.
Pas beaucoup, hein?
Voilà.
Mais lui, on laissait tomber.
Comment ça s'est passé quand la mécisserie a fermé?
Mas quase trabalhei todo o tempo e acho mais assim que. De 3 ans, à ce moment-là.
Vous allez rire. Ouais. Je rigole avec lui. Alors il me dit, je lui dis, José, depuis quand tu es en France? Parce qu'il ne parle pas bien français. Il me dit 30 ans en France. Et pas comprendre
non,
français.
40
combien?
Ans.
Ouais.
22, et 42 ans.
Et je lui dis, pourquoi tu ne parles pas français? Il me dit, c'est parce que moi, travailler avec les Arabes.
Les Arabes, les Espagnols, les Italiens. C'est moi, comme français, je ne travaille pas beaucoup.
Tu ne parles pas l'arabe alors?
Non, moi, je ne parle pas l'arabe.
Tu sais comment ça se fait, tu n'as pas appris à parler français?
Ils comprennent quelqu'un mot, mais ils ne comprennent pas. L'arabe, ils ne comprennent pas. L'espagnol, ils comprennent.
Mais c'est vrai que la mégisserie elle-même n'a jamais mis en place un système social pour le soutien des salariés. Autant la mine, par exemple, il y avait tout un tissu social derrière les mineurs. Bon, au niveau des mégisseries, il y avait des salariés, mais du jour au lendemain, ils allaient au chômage, point final.
On sentait les produits chimiques, tout ça, il n'y avait pas de ventilation, c'était tout enfermé, quoi, presque. Après, on accrochait les pots sur le galetas pour faire sécher. Alors, en plein courant d'air, pas de chauffage, rien. On se faisait tremper les épaules, c'est-à-dire esclavage, quoi, pour un SMIC. Il n'y avait rien. Ils ont laissé, tout le monde a laissé tomber. C'est-à-dire l'ouvrier, on avait besoin de lui. Une fois que c'était fermé, ça y est, c'est comme un esclavage, quoi. Il y a eu travail, c'est bon, on est content de vous. Il n'y a plus eu travail, on vous jette. Ben après, bon, il y en a qui ont pris la retraite, pré-retraite, il y en a qui ont pris la retraite, et puis le restant, il y en a qui ont fait des formations après. Après, bon, il y en a qui sont restés au chômage, quoi. Puis même au niveau des... moi, je n'ai pas honte de le dire, je suis allé voir des assistants pour une aide financière, que je n'arrivais pas à payer mon loyer, tout ça. J'avais pas mal de dettes. Ben, personne, et je n'ai pas reçu un centime. C'est ça que, sur la ville de Groyer, je l'aime vu un peu. Les anciens maires, quoi. Il n'y a personne qui a fait quelque chose. Enfin, je pense que je n'étais pas le premier. Pour les jeunes, bon, moi, j'ai 50 ans. Mais encore, bon, j'ai trouvé un travail quand même et j'essaye de le garder. Mais les jeunes, je pense pas. Ça sera trop dur pour eux. Et l'avenir, je crois que... Si, il faudrait qu'ils partent de Groyer, déménager, quoi. Parce qu'à Groyer, je ne vois pas l'avenir.
Par rapport au passé industriel, ça différencie bien les patrons qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui peuvent vivre quelques générations, ça fait déjà deux générations. Je pense qu'ils peuvent vivre encore trois générations sans se poser trop de questions. Et plus on a de gens riches, plus on a de gens pauvres. Il y a vraiment un fossé entre les riches et les pauvres.
C'est très amusant, hein. Enfin amusant, hein, avec de l'ironie, je dirais. Effectivement, c'est la ville du Tarn où il y a le plus de personnes qui paient d'impôts sur la fortune. Et c'est aussi la ville du Tarn où on a le plus de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a effectivement un fossé énorme entre les populations, quoi. Donc,
déjà, c'est des ouvriers qui n'ont pas investi, qui ont toujours vécu dans les logements sociaux. Parce qu'autrefois, on a fait en sorte qu'ils se développent le moins possible, intellectuellement. Parce que depuis le temps qu'ils ont travaillé, ils ont été locataires, ils auraient pu se payer une maison individuelle pour pouvoir avoir quelque chose à donner à leurs enfants. Le peu qu'ils ont fait, s'en sont bien sortis. On voit même les enfants, une autre vision des choses. S'il y avait eu un changement radical, à ce moment-là, les gens se seraient révoltés un petit peu. Groyer aurait gagné 10 ans ou 15 ans de développement.
Là, j'avoue que... Je trouve ça je trouve que la population groyétoise est tranquille en fait par rapport à ça, pas du tout de revendications. Je sais pas, c'est comme si on avait vraiment mis un mouchoir sur ce qui s'était passé, que ce soit le patronat ou finalement les ouvriers. Voilà, c'est un peu une espèce de fatalité. Ils prennent ça un peu comme une, à mon sentiment, hein, c'est vraiment, c'est comme ça. Voilà, on y pense, hein. Le passé c'était extra, mais ça les empêche aussi de se projeter, quoi. C'est vraiment, c'est très particulier, je sais pas comment l'expliquer, c'est très particulier, mais en tout cas, c'est... oui, ça crée, en tout cas par rapport à la population qu'on reçoit sur Groyer, on sait qu'on a un énorme travail à faire sur effectivement cette question de projection, quoi, de vraiment sortir de l'immigré qui est arrivé, qui a été un bon ouvrier en mégisserie, qui a élevé ses enfants et qui aujourd'hui se retrouve coincé parce qu'il n'a pas d'avenir à proposer à ses enfants, si ce n'est de se dire, bon, mais voilà, on habite un quartier d'habitat social. Et on n'a pas de boulot, et à Groyer, il n'y a pas de boulot, et on ne peut pas nous en offrir, et il n'y a rien d'autre. Quoi. C'est vraiment... On a vraiment l'impression que pour certains d'entre eux, le monde s'est arrêté. Il n'y a plus du tout cette capacité à se projeter et à se dire « Bon, les mégisseries, c'est fini, bon, c'était le bon temps, mais voilà, la ville présente d'autres avantages. Comment on peut s'en sortir autrement aller voir ailleurs ?» J'ai vraiment l'impression qu'on les a vraiment enfermés.
Alors, la fermeture de la mégisserie a entraîné la fermeture de tout le tissu industriel, tout le tissu artisanal et tout le tissu commercial de la ville. Groyer, il n'a plus de commerce.
J'ai l'impression que c'est vraiment, en termes de mobilité, on sent bien qu'il y a des problèmes, hein, il n'y a pas de gare, bon, la mobilité physique en tant que telle, mais je pense que c'est d'un autre ordre, c'est plus de la mobilité, je dirais presque intellectuelle ou mentale, où voilà, on est groyétois, on est arrivé à Groyer, c'est comme s'il y avait une espèce de trahison si on pensait aller pouvoir travailler ailleurs ou aller vivre ailleurs, ou voilà, je ne sais pas comment l'expliquer autrement.
Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que les gens, notamment les gens âgés, ils vivent un peu dans le passé par rapport à la grande période de Groyer?
Oui, des fois ils nous disent qu'avant c'était la bonne époque, qu'il y avait plein de magasins, que c'était vivant et maintenant c'est entre parenthèses mort. Voilà.
Et vous avez cette impression?
C'est vrai que la ville, elle est vide, il n'y a personne en ville. Voilà. Après, j'ai la même impression. Ouais.
Viens, viens. Viens, il y a un reportage pour les jeunes, viens.
Ouais, voilà. Surtout un lycée. Pourquoi il n'y a pas de lycée? C'est vrai, hein. Il y a 600 gamins tous les jours. Ils prennent le bus, ils vont à Gaillac, ils vont à Lavore, ils vont partout. Pourquoi il n'y a pas un lycée ici? S'il y avait un lycée, il y aurait plus... Le centre-ville, peut-être, il serait plus animé. Les jeunes... Par exemple, je veux dire un truc. Ici, par exemple, il y a des terrains de foot, il y a des salles de musculation, il y a des salles de boxe. Les jeunes, ils sont formés ici. Dès qu'ils arrivent au lycée, après, c'est les autres villes qui vont prendre ces jeunes avec eux. Pourtant, ils ont été formés à Groyer. Et une fois qu'il y a les jeunes, quand ils partent au lycée à Gaillac, à Lavore, à Castres, un peu partout, ils ne reviennent plus à Groyer. Et voilà.
Moi, je suis convaincue que si Groyer est dans la situation actuelle, je pense qu'on voulait garder les ouvriers groyétois. Voilà.
Je pense que c'est une trace du passé industriel, oui. Oui, parce que je pense que la culture n'a pas été une des priorités du patronat ou de la collectivité qui était là auparavant. Hein. Le rugby, ça, c'est clair, c'est bien marqué, c'est bien. La culture n'a pas du tout été. Voilà, il n'y a pas de lycée d'enseignement général non plus. Voilà, donc ça veut bien dire certaines choses, hein, sur le plan.
Et puis, effectivement, donc mono-industrie, on avait une population ouvrière. Donc, pourquoi avoir une gare? Pourquoi développer des infrastructures pour circuler? Les ouvriers n'avaient pas besoin d'aller ailleurs. Hein, donc, et c'était bien qu'ils soient liés à leur usine, qu'ils travaillent sur leur usine. Bon, là, je n'irai pas plus loin parce que je veux blesser personne. Mais je pense qu'effectivement, si. Enfin, moi, j'en suis convaincue que c'était... si aujourd'hui, Groyer est dans cet état-là, c'est parce qu'à un moment donné, ça desservait bien une politique liée à ces usines et à l'emploi des ouvriers, bien sûr.
Alors pour moi, alors et là c'est pareil, ça n'engage que moi, ça veut vraiment dire, ben voilà, on a un lycée d'enseignement professionnel avec les filières professionnelles qui intéressent effectivement la ville, voilà, hein, à l'époque. Ben on va faire de bons ouvriers, les enfants d'ouvriers vont être des enfants d'ouvriers, ils n'ont pas besoin d'avoir une éducation beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte. Hein, les enfants de patrons, bon, eux peuvent aller au lycée de Lavore, au lycée de Gaillac, hein, je dis n'importe quoi, mais voilà, parce que ça fait partie des choses. Les enfants d'immigrés restent à Groyer, quoi. C'est vraiment ce côté un petit peu autarcie, là, où tout était bien ficelé pour qu'effectivement les choses soient dans l'ordre des choses qu'ils avaient imaginées ou décidées.
Ça aussi, c'était une politique de la ville. si on développe, on donne la culture aux gens, c'est mon ressenti. Les gens s'ouvrent vers l'extérieur et font autre chose. Si les personnes ont vu leurs parents, leurs grands-parents dans le cuir, et qu'on leur explique qu'il n'y a que ça pour vivre, ils font que ça, comme dans toutes les grandes villes qui ont une seule industrie. Et une personne qui a toujours travaillé dans une industrie, chez un patron, la mégisserie, c'était sa deuxième famille. Aujourd'hui, il a du mal à dire que c'est de la faute du mégissier, du patron lui-même, même s'il a souffert toute sa vie, il se dit « bon, tout compte fait, je suis arrivé à la retraite, j'ai ma maison. Grâce à ce patron, quand même, j'ai une vie, j'ai assuré mes vieux jours. Mais s'ils avaient été vraiment reconnus, ils seraient dans de meilleures conditions, leurs vieux jours. C'est mon point de vue personnel. »
C'est quoi
Groyer
pour
vous? Groyer, c'est une cité dortoir. Hein.
Ah oui, vous le voyez comme ça?
Ouais, la tranquillité.
Vous êtes né à Groyer?
Non, à Lavaur. Bon, après j'ai grandi là, ouais. C'est comme si j'étais né ici, quoi. 27 ans. Ouais.
Et vous travaillez à Groyer maintenant ou
Je travaille à Toulouse. Et après, Groyer, c'est tranquille, ouais. C'est tranquille pour dormir, pour se reposer, c'est tranquille. Hein. Pas mieux, quoi. Faut faire des économies aussi. Et voilà le
marchand de légumes.
Ça va?
Ça va, Rick? Tu vas bien?
Ouais. Tranquille.
C'est sur ce que de sujet?
Sur Groyer.
Tu fais un reportage pour la radio sur Groyer et notamment sur les traces de son passé industriel. Vous connaissez un peu l'histoire.
Le passé industriel, ouais. Le cuir. Ouais. Vachement réputé pour le cuir. Capitale mondiale. Hein.
Et là,
ouais, mais ils sont où là? Ils sont où? Ils ont exporté, ils sont partis. Ils m'ont laissé là. Putain. Je suis arrivé là de Groyer, tu sais, comme hier, j'arrivais, tac, premier truc que tu vois, des usines. Des usines, tu sais. Dans d'autres villes, tu vois des monuments, des trucs, ici, tu vois des usines.
Ça fait partie de l'histoire.
Voilà, ça fait partie du patrimoine de Groyer. Mais bon, ces usines, on va pas laisser comme ça.
1600 mètres carrés, je crois.
Ça, c'était une mégisserie importante à l'époque, hein.
Ah, c'est important, tu vois. Déjà par le volume, vous le voyez par le volume.
Ouais. Vous savez à peu près combien de personnes vous employez ici?
Ouais, par là, 200, entre 200 et 300 personnes. Ça faisait les 3-8.
Donc, à travers l'inventaire historique urbain, nous avons recensé plus de 200 sites industriels.
Bon, faites attention au plancher, quand même.
Et le programme de redynamisation urbaine en contenait plus d'une centaine. À l'origine, ouais, sur le plan architectural, nous en avions recensé, donc sous cette autre forme-là, entre 160 et 170 exactement. Donc déjà quand même un volume relativement important, même si sur le plan de la superficie de chacune d'elles, nous sommes sur des superficies modestes qui n'ont rien à voir avec les sites industriels que nous trouvons dans les banlieues des grandes villes, par exemple.
Il y a des pollutions à faire. Le gros problème, c'est ça, surtout. Du chrome, oui, chrome, ils ont tourné avec du chrome. Donc voilà le problème qu'on rencontre un peu.
Grosso modo, il y a trois gros types de pollution que l'on rencontre. Une pollution aux métaux, une pollution aux hydrocarbures, et puis une pollution à ce qu'on appelle les composés volatiles. Hein, voilà. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on a essentiellement rencontré les deux premières catégories, à savoir les métaux. Donc parmi les métaux, nous avons le plomb, le cuivre, l'arsenic, le mercure également. Et puis les hydrocarbures, ce sont généralement l'usage du fioul, des cuves à fioul. Tout ça, ce sont évidemment des produits qui étaient utiles à l'activité mégissière.
Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on a beaucoup d'usines en ville, parce qu'on suit le cours d'eau. Et une usine de cuir sans eau, ça ne marche pas. Donc voilà pourquoi.
On pêche dans le Dadou,
quand même. Oui, bien sûr. Mais on a toujours pêché dans le Dadou. Mais on ne consomme pas le poisson, mais on a toujours pêché dans le Dadou.
J'avais le spectacle des usines qui étaient en face, de l'autre côté du Dadou, dans le quartier de Saint-Pierre. Et à chaque crue, Eh bien, il y avait une porte, et même plusieurs, des usines d'en face qui s'ouvraient et on balançait toutes les saletés possibles.
Toutes les eaux utilisées dans la mégisserie avaient les produits, que ce soit le sulfure, tous les produits chimiques qui servaient à traiter la peau, repartaient dans le Danou. Et le Danou était un véritable égout à ciel ouvert.
C'était de véritables antres. Hein. J'ai eu une image là des usines qui bordaient le chemin qui descend à la passerelle de Saint-Jean. Hein. Il y avait la lumière tous les jours, des petites fenêtres, de l'eau qui coulait partout. Hein. C'était sombre, c'était humide. Les gens qui travaillaient là-dedans, vous savez, ça n'avait pas bougé depuis la création. Ça faisait plus de 100 ans.
Voilà la rivière et ses fameuses cuves. La rivière parce que on travaillait avec l'eau du Danou. Bon, ça servait à nettoyer les pots.
Ça c'était le travail le plus dur de la magistrée ?
Ah, c'était oui, le travail le plus dur. Ouais. C'était vraiment pénible. Dans l'eau, constamment dans l'eau. Quoi.
On peut dire qu'aujourd'hui, le responsable du site, c'est le dernier exploitant de l'entreprise. Un exploitant, avant de fermer son entreprise, doit mettre son site en sécurité, déjà. Il doit, par exemple, enlever les bidons qui contiennent des produits, il doit fermer le site pour que les enfants ne puissent pas y accéder. C'est vrai que quand une entreprise se trouve en liquidation judiciaire, on a un liquidateur qui prend en charge ces solutions-là. Et il faut dire que la loi aujourd'hui est très claire, quand il n'y a plus personne, c'est l'État qui est responsable. Hein, donc aujourd'hui, sur Grouillet, j'ai réussi à faire dépolluer un site, et j'en suis en train, c'est de l'ordre de quand même de 400 000 euros, uniquement pour mettre en sécurité le site, et c'est l'État qui le prend en charge.
Faites gaffe parce qu'il y a des trous partout.
Oui.
Et à vos risques et périls, ils vous l'ont dit, la mairie, si vous cassez la gueule, c'est la mairie qui est responsable.
Mais bien sûr, on est propriétaire, on a sécurisé, on connaît les lieux.
Bon, parce que là, on a eu un problème de pollution là, à côté. Donc celle-là, elle appartient à la mairie.
Voilà.
Ils l'ont rachetée. Ça, c'est sûr, vous êtes propriétaire. Bon.
Aller vivre à Grouillet. C'est pas sexy quand même, hein? Quand on en, vous devez vous en rendre compte quand on en parle aux gens. Grouillet, c'est pas sexy. Alors, dans l'image de Grouillet, c'est une ville où d'abord il y a des gros soucis de petite délinquance, un taux de chômage très très élevé. Vraiment très élevé, je crois que c'est un des plus élevés du département. Et voilà, une ville qui se meurt, quoi, et avec des bâtiments industriels, des friches industrielles abandonnées. Il y en a, et c'est pas la seule ville dans le Tarn comme ça, mais ouais, c'est... Et puis, paumé au milieu de nulle part, ouais, un peu aussi, quand même. Hein. Grouillet.
Je la connais pas. Moi, quand je vais dans la ville de Grouillet, je prends le périphérique, donc je suis jamais... Franchement, je crois que je suis jamais rentrée dans la ville de Grouillet. Après, oui, je sais qu'il y a... Les gens trimballent une très mauvaise opinion de la ville de Grouillet, mais moi je n'ai pas d'opinion. Je ne la connais pas.
La ville de Grouillet, c'est une vieille ville industrielle du Tarn qui n'a pas su se renouveler au bon moment.
Et qu'est-ce qu'elle vous inspire, l'image de cette ville ?
Une triste image d'une ville morte un peu, quoi, qui est morte. Quoi.
Est-ce que vous iriez vivre à Grouillet ?
Non, clairement non.
pas du tout.
Image, la ville de Grouillé.
Ça fait moi, toutes mes copines qui habitent à Grouillé, elles me disent que oui, voilà, ça fait ghetto. Toutes mes copines qui habitent là-bas, elles me disent que c'est pas trop une ville qui est bien, quoi. Elles viennent toutes à l'internat ici, mes copines, à Albi. Elles a plus de vie ici, et le week-end, elles n'ont pas très envie de rentrer chez elles. Voilà.
C'est une ville qui n'est pas, enfin, elle donne pas une image de sécurité, voilà, par rapport à aux problèmes, oui, je n'aimerais pas habiter dans cette ville.
Elle
voilà,
me laisserait pas y aller. Hein. Non, elle me laisserait pas y aller. Hein. Ah, c'est sûr et certain.
Ils ont peur de venir à Grouillé, carrément.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que moi, je pense qu'il y a une forte communauté maghrébine. Et les gens, ils ont peur des inconnus.
Je vous remercie.
Voilà,
merci. Merci, bonne journée.
Merci de même.
Au revoir.
Au revoir. Merci, David. Oh, bien sûr.
Grouillé, c'est une ville où on dit qu'il y a... Enfin, par exemple, il y a un vote Front National. Faux. À Grouillé. Et ça, c'est lié au fait qu'on parle de présence d'immigrés, de difficultés de cohabitation, etc. Or, ces immigrés, ce sont des Grouillétois.
Il est où aujourd'hui ?
Ben, j'ai l'impression que c'est une ville qui s'est dégradée, mais puis en fin de compte, j'ai visité Grouillé il n'y a pas si longtemps, et il y a beaucoup plus de choses à voir qu'on ne le pense a priori. Et les mauvaises odeurs, avec toutes les mégisseries qui ont disparu, les mauvaises odeurs ont disparu aussi.
Il n'y a plus personne. C'est David.
Ça va bien ?
Non.
Ça va bien ?
Chanté, chanté.
Stéphane qui s'occupe.
C'est une brasserie qui est ici, ça va ?
Bonjour.
Benoît.
Charlotte. À Grouillé, on a une spécificité du fait de ce passé industriel. Beaucoup de compagnies se sont installées dans la ville de Grouillé, mais jusqu'à maintenant, les politiques culturelles ne s'étaient jamais engagées vis-à-vis de ces compagnies et n'avaient jamais pris l'importance d'avoir ces compagnies sur ce territoire. Aujourd'hui, on a complètement inversé la vapeur et c'est vrai que les compagnies qui sont là depuis longtemps, alors je vais en citer deux, trois, mais qui sont connues aujourd'hui au niveau mondial pour certaines, européen et national pour d'autres, comme les plasticiens volants, on a la compagnie Le Nom du Titre, on a la compagnie du Théâtre des Rougissants, voilà, et bien d'autres. Donc c'est vrai que ces compagnies vivaient sur ce territoire sans y avoir une empreinte réelle. Et nous, on a essayé, en fait, de rapprocher les habitants entre eux, c'est-à-dire toute cette nouvelle émergence culturelle qui est arrivée sur Grouillé, comment on faisait le pas pour que les habitants puissent rentrer en contact, puissent de nouveau être fiers de ce qui se passe dans leurs usines.
Le fossé, il s'est créé de toute façon, par le fait que beaucoup de gens sont venus sur Grouillé, et je suis ravie qu'il y ait des artistes et compagnies, ça, je ne suis pas du tout contre, mais on a l'impression qu'ils forment un groupe
non intégré,
ou du moins qui ne nous intègre pas.
Au départ, ça a été très violent pour les Grouillétois de voir qu'il y avait des gens qui venaient dans ces usines. Donc pour eux, ça, en plus, il y a eu une aventure un petit peu difficile avec un endroit qui avait été squatté. Donc tout ça, tout le monde a un petit peu a vécu ça comme un squattage, on leur volait leurs usines et un pan de leur histoire. Et puis le fait de retravailler avec ces compagnies, d'ouvrir les lieux, de voir qu'il s'y passe quelque chose, qu'il y a du travail, qu'au contraire, c'est une image positive pour la ville de Grouillé, il est en train de se passer quelque chose avec les habitants, c'est-à-dire qu'ils redeviennent fiers, effectivement, qu'il y ait des personnes qui travaillent dans ces usines. Donc tout ça, c'est long. Hein. Nous, on est là depuis 4 ans et c'est quelque chose qui n'a pas été parlé pendant plus de 20 ans.
«
Alors, soit c'est des tabous, soit c'est une non-acceptation, je ne sais pas comment on peut... En tout cas, c'est... On sent que c'est souffrant pour la ville, ça c'est, voilà, on sent que c'est une blessure qui n'est pas encore bien, bien refermée, bien pensée, donc ça n'a pas été réfléchi, ou je ne sais pas, ça n'a pas été... Ça n'a pas été pris, je dirais, de manière... sous tous ses angles. Je pense que vraiment, on l'a laissé passer. Ça, je pense qu'ils l'ont subi. On a vraiment l'impression que ça a été subi. Vraiment, ça a été subi, et du coup, ça laisse des traces, quoi. Donc, voilà.
Donc c'est vrai qu'on a ce devoir de mémoire pour nos jeunesses futures et qu'elles comprennent mieux pourquoi Groyer dans les difficultés sociales aussi, ben voilà, qu'on y vit. Et puis aussi parce que c'est à partir du moment où on a bien travaillé cette mémoire qu'on peut parler d'avenir. Voilà, c'est-à-dire à un moment donné, faire peut-être le deuil d'une histoire et de passer à autre chose.
Vous venez d'écouter « Faire peau neuve », un documentaire de Charlotte Rouault et Benoît Bory, avec les voix de Patrick Cohn, Mohamed Boumediene, Clotilde Vergeret, maire adjointe à la culture de la ville de Groyer, Claude Fita, maire de la ville de Groyer, Albert et Suzanne Catalo, Gabriel Rouyre, Claude Bousquet, conseiller municipal de la ville de Groyer et conseiller général du département du Tarn, Fatima Selam et Evelyne Verlaguet, chargée de mission, friches industrielles de la ville de Groyer. Merci aux Mégisseries du Midi. Une production Faïdos Sonore, novembre 2012.